Grand Colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien. En fait, il aurait fallu placer l'intervention de Mathias Hayek dans la première partie de la matinée, puisqu'il va nous parler du Japon et de la deuxième moitié du XVIe siècle. Enfin, ce n'est pas précisément ce qu'il va nous dire. Et donc, c'est beaucoup plus proche de la guerre des deux, les guerres des Roses et des Armagnacs et des Bourguignons que de la guerre de Sécession, dont nous parlera ensuite Florian Michel. Alors, il y a un problème technique.
Oui, j'ai un problème technique, je suis vraiment désolé, parce que la vidéo ne marche pas là-dessus. Ce qu'on va faire tout simplement...
Alors, Mathias Hayek est japonologue, mais un japonologue, pas mais, un japonologue avec la tête philosophique. Il a un certain talent pour s'élever au-dessus de son savoir érudit. J'ai pour lui la plus grande estime.
Je fasse quelque chose là. Parce
que mais apparemment, je ne sais pas si c'est sa faute, la technique. C'est la maison.
C'est la maison, apparemment, qui a un problème.
Pardon,
c'est un problème de Apple
versus. Oui, comme toujours.
Je dis oui.
De problème. Écoutez, je ne veux pas non plus faire perdre trop de temps à nos travaux. Je n'ai pas la vidéo à part, mais tant pis. On va faire sans. Si vous savez utiliser un Mac ?
Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave.
Complet. Alors, écoutez, ça n'est pas très grave, on va revenir là. Bien, pardonnez-moi donc pour ces contretemps, j'avais quelque chose qui était assez important pour ma présentation et que je ne pourrais finalement pas vous montrer. J'aurais dû prendre un peu plus de temps tout à l'heure pour vérifier comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, je remercie tout d'abord Jean Béchler d'avoir bien voulu me convier à cette réunion. Je lui suis à la fois reconnaissant et en même temps un tout petit peu embêté par la demande qu'il m'a faite. Comme il vient de le rappeler, effectivement, je ne suis pas véritablement spécialiste de ces questions martiales, mais j'ai répondu à son appel en essayant, à ma manière en tout cas, de vous présenter ici une réflexion assez personnelle sur une période importante de l'histoire du Japon. La séquence temporelle, connue sous le nom d'époque Sengoku, ou provinces en lutte, occupe une place à part dans l'imaginaire historique de l'archipel. Les nouvelles et romans, prenant pour cadre cette période, fleurissent depuis au moins le siècle dernier, sans doute même avant, et la télévision, chaîne publique, la NHK en tête, produit année après année des feuilletons mettant souvent en scène ces héros locaux que sont les seigneurs de guerre du XVIe siècle. L'image des batailles et luttes acharnées que se sont livrées ces guerriers aux armées de plus en plus spécialisées et flamboyantes et impressionnantes sur fond d'appropriation des territoires semble avoir été déjà assez saisissante pour les observateurs contemporains, au point qu'ils comparent cette situation à celle de la Chine pré-impériale, dite des royaumes combattants. Au-delà du Japon, cette époque de bataille connaît une popularité montante en Occident depuis le siècle dernier. En Occident, où si le public éprouve quelques difficultés à retenir les noms de ces héros, les films de Kurosawa Akira, par exemple, comme Kagemusha, ont contribué à diffuser l'image flamboyante des samouraïs en armure se livrant une guerre sans merci. Or, cette postérité dans l'imaginaire collectif doit justement nous amener à nous interroger sur la situation sociale et politique de cette période. Et en particulier, on peut questionner la pertinence du concept de guerre civile, parfois appliqué à l'ensemble de cette séquence temporelle. Alors, je pense que nous sommes ici en plein dans les préoccupations qui ont été celles des deux communications précédentes, puisqu'on va essayer de réfléchir à comment qualifier finalement ces conflits armés qui ont lieu au Japon au cours du XVIe siècle. Alors, le titre que je donne ici à cette communication, « Prendre ce qui est sous le ciel », c'est un peu mystérieux, j'essaierai d'expliciter cette appellation. Je vais essentiellement me concentrer sur la seconde partie du XVIe siècle, mais avant cela, on va donc essayer de... préciser un peu le cadre général de cette période. Alors, je ne peux malheureusement pas ici m'étendre trop avant sur ce qu'est le Moyen-Âge au Japon. Il y a en réalité plusieurs Moyen-Âge. On peut distinguer différentes périodes qui courent depuis la toute fin du XIIe siècle jusqu'à justement la période qui va nous occuper ici, mais en réalité un peu en amont, donc on va dire globalement jusqu'au XVe, à la fin du XVe siècle. Ce qui caractérise ce Moyen-Âge japonais, comme l'a brillamment rappelé Pierre Souri lors de l'exposition qu'il a organisée au musée de Nantes sur les samouraïs 1000 ans d'histoire du Japon, ce qui caractérise ce Moyen-Âge japonais, c'est l'émergence d'une classe guerrière qui va se transformer et progressivement acquérir un pouvoir politique de plus en plus important, mais ces transformations ne sont pas continues, ce n'est pas univoque, elles vont subir elles-mêmes des transformations importantes. Dans le schéma classique des deux premiers Moyen-Âge, celui de Kamakura et celui ensuite de Muromachi, on a une organisation politique centrée sur un personnage qui est le shogun, mais qui n'est pas tout seul, qui a derrière lui l'autorité ou le facteur légitimant qui est celui de la cour. Cette cour est de plus en plus exsangue, elle est donc toujours sous la dépendance financière du shogun. Ce shogun a un pouvoir sur des vassaux, qui constituent autant de gouverneurs dans les différents territoires autour de la capitale. Donc la capitale Kyoto, hein, au centre du pays, est à partir notamment donc du deuxième shogunat, celui de Muromachi, donc à partir du XIVe siècle, de la fin du XIVe siècle, le lieu de la politique, le siège de la politique, le siège du gouvernement. Ce qui est important ici, c'est que de comprendre que ces vassaux du shogun dans le second Moyen-Âge sont appelés à se rassembler dans la ville de Kyoto et à ne pas finalement avoir de lien avec leurs terres sur lesquelles ils ont laissé ou ils laissent les affaires en gestion à des représentants. Donc ces seigneurs sont présents, ces vassaux shogunaux sont présents à Kyoto, et c'est ce système qui va progressivement se déliter au cours du XVe siècle jusqu'à éclater complètement au début du XVIe. On va parler d'ailleurs à cette époque de monde à l'envers, c'est une expression consacrée dans l'historiographie japonaise, pour justement parler de cette accession au pouvoir d'une nouvelle classe guerrière. C'est-à-dire que les guerriers étaient déjà là, mais ce sont des nouveaux guerriers qui vont prendre le pouvoir régionalement. Et donc on assiste à un éclatement du pouvoir et à la mise en place de ce que Jean Béchelet appellerait, je pense, un jeu polypolaire, et où on retrouve un peu ce que disait tout à l'heure le professeur Contamine concernant donc des politiques clairement identifiées qui se font la guerre. Et donc on va pouvoir ici se poser la question, ces principautés qui se sont donc constituées essentiellement au cours du XVIe siècle et qui vont ensuite se livrer une guerre qui va à terme déboucher sur une unification, peut-on qualifier cette guerre entre principautés de guerre civile ? Mais au-delà de ça, en préparant cette communication, je me suis aperçu que la littérature, l'historiographie japonaise récente, si elle adopte donc des points de vue assez variés sur cette période, essentiellement une alternance entre une vision d'histoire nationale qui va mettre en avant les récits des héros, qui vient ensuite s'opposer à une histoire beaucoup plus sociale à partir de la deuxième partie du XXe siècle, qui elle va au contraire revaloriser le début du XVIe comme une période de grande liberté et d'autonomie. Dans ce cadre donc d'affrontement d'écoles, la question du pourquoi des batailles est rarement abordée. Sans doute parce qu'elle est peut-être trop évidente, mais je pense qu'elle mérite malgré tout réflexion. Pourquoi fallait-il faire la guerre et pourquoi fallait-il unifier le pays ? Est-ce que c'était une nécessité ou est-ce qu'il aurait pu se passer autre chose ? Alors, je reviens brièvement sur ce XVe siècle qui va pour poser un certain nombre de jalons. Pourquoi le XVe siècle ? Parce qu'on fait d'ordinaire remonter cette période dite donc de Sengoku à une première série de troubles qu'on appelle les troubles de l'ère Honin qui commencent en 1467. Ces troubles, si je reprends les catégories qui ont été évoquées précédemment, correspondent tout à fait à cette notion de guerre civile. Pourquoi ? Parce qu'elle oppose, ce sont des troubles qui sont créés par des conflits familiaux entre ministres du shogun, des conflits familiaux entre frères, entre fratries, et les vassaux des uns et des autres sont appelés à prendre position et se livrer une guerre destructrice dans la capitale de Kyoto qui va pendant 11 ans de conflits qui ne débouchent sur rien. Il n'y a pas de vainqueur, la capitale est en ruine, est en cendres, et tout ça pour aucun résultat politique concret. Le statu quo est maintenu, mais c'est le début, si vous voulez, de la dissolution complète du pouvoir central. Cette dissolution est réaffirmée lors d'un coup d'État en 1493, qui reprend les mêmes acteurs, si vous voulez, que ces troubles de 1467. Encore une fois, des conflits familiaux, des luttes fratricides, qui, cette fois, achèvent le pouvoir shogunal. Et donc, ce déclin du pouvoir shogunal entraîne dans sa chute, évidemment, la cour qui était donc située à Kyoto et qui le soutenait, et également la ville elle-même de Kyoto, hein, le support économique de ce pouvoir central. En regard de quoi, dans les provinces périphériques, une nouvelle donne va progressivement se mettre en place pendant toute la première moitié du XVIe siècle. Cette nouvelle donne, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui s'effectue donc selon plusieurs axes, selon les régions, avec en particulier le remplacement ou la transformation des anciens pouvoirs liés au centre, donc ces fameux gouverneurs, shugo, par leurs propres vassaux locaux. J'essaie simplement de voir si ça veut bien un jour fonctionner. Non, bon, décidément, j'y arriverai pas. Que se passe-t-il concrètement ? Comme je l'évoquais tout à l'heure, les gouverneurs appointés par le shogun étaient réunis à Kyoto et avaient laissé en gérance, si vous voulez, leur territoire qui constituait leur support économique en gérance à des vassaux locaux, hein, donc, qui, eux, résidaient sur place. Alors, après ces conflits de la fin du XVe siècle, que se passe-t-il ? D'abord, certains de ces gouverneurs vont se retirer sur leurs terres. Donc ils vont revenir sur leur propriété, sur leur sol, si vous voulez, là où se trouve leur fondement économique, et vont se rendre propriétaires véritablement de ces sols et non pas simplement exploitants. Donc je ne peux malheureusement pas expliquer comment on en arrive là, c'est en réalité un phénomène extrêmement long et complexe qui remonte à l'Antiquité, dès le 8e siècle, où va se mettre en place toute une série de propriétés enchâssées au niveau des terres rizicoles. Mais quoi qu'il en soit, ces anciens gouverneurs donc, rentrent sur leurs terres et reprennent le contrôle de leur base économique. Mais dans certains cas, pendant qu'ils étaient en train de batailler à Kyoto, leurs représentants locaux en avaient profité pour prendre l'ascendant et s'installer eux-mêmes comme propriétaires des sols. Et donc les gouverneurs ne retrouvent pas leur terre, leur support, et tombent, leur famille tombe dans l'oubli. Dans d'autres cas, enfin, le vide laissé et par les gouverneurs et par leurs représentants est exploité par des nouveaux venus, des aventuriers, qui ne sont pas forcément issus de la classe guerrière et qui vont, même s'ils ne sont pas nombreux, prendre possession d'un territoire par la force et s'en rendre maître et propriétaire. Cette évolution, ces changements qui vont caractériser cette période donc des provinces en lutte, dont le nom, ici Sengoku, les pays qui se battent, laisse penser qu'on a une guerre permanente, mais en réalité, ça dure quand même sur la longue définition, qui serait donc de 1467 à 1615, environ 150 ans. On ne peut pas imaginer 150 ans de guerre perpétuelle, permanente, mais bien au contraire, on peut l'imaginer, mais on ne peut pas considérer cela simplement comme une période de transition, comme c'est parfois le cas. On voudrait voir quelquefois dans cette époque des provinces en lutte une transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Je pense que effectivement elle est transitoire parce qu'elle est coincée entre deux périodes et qu'elle tient à la fois de l'une et de l'autre, mais on ne peut pas qualifier 150 ans d'histoire de simple transition. Les transformations donc, politiques radicales de cette période va voir l'émergence, à partir de la deuxième moitié essentiellement du XVIe siècle, de ces grands seigneurs de guerre, Sengoku Daimyo, qui gouvernent des territoires mitoyens, qu'il va falloir donc défendre et, le cas échéant, étendre. Cette défense et cette expansion territoriale va se faire d'abord par la guerre, bien sûr, mais également par un certain nombre d'alliances ad hoc, qui passent soit par le mariage, par l'adoption et autres formes de prise d'otages. Puisque dans ce cas ici, le mariage et l'adoption sont essentiellement des formes de prise d'otages qui, malgré tout, ne suffisent pas à garantir le respect des règles. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici véritablement, je pense, la vision d'un monde polypolaire où chaque entité politique a ses propres lois et surtout on ne peut pas faire confiance à son voisin pour respecter des règles du jeu qui ne sont plus garanties par personne. Alors, les forces en présence subissent de très nombreuses transformations au cours du XVIe siècle, avec une première stabilisation vers 1560. Si j'arrivais, c'est ça qui est très dommage. Bon. Non. Vers 1560, donc on a une première stabilisation. Alors comment en arrive-t-on là ? Par les procédés que j'ai essayé d'évoquer précédemment, les anciens pouvoirs sont, le cas échéant, retournés sur leurs terres, ont trouvé ou non des soutiens auprès de leurs vassaux, vassaux qui, ayant profité de leur absence pour asseoir leur domination sur le territoire, ne sont pas toujours enclins à suivre les indications ou les querelles de fratricides de leurs seigneurs et vont progressivement, dans certains cas, les remplacer. Ce remplacement va donner lieu à l'établissement de six grands blocs, du sud-ouest au nord-est, donc d'une part l'île la plus au sud, l'île importante la plus au sud, qui est le Kyushu. Là, je ne sais pas si on y voit quelque chose. Bon, ça serait cette partie-là. Alors là, on est justement en 1467, si vous comprenez bien ce que j'avais voulu faire. J'avais une carte animée qui allait de 1467 à 1615. Vous auriez comme ça pu voir véritablement l'évolution des différents blocs et la répartition des forces. C'est extrêmement regrettable, mais tant pis. Quoi qu'il en soit, ce premier bloc ici, je vous demanderai un effort d'imagination, comprend Donc, vous voyez ici un certain nombre de frontières qui sont en réalité les frontières administratives anciennes. Hein, et ces nouvelles seigneuries, ces nouvelles principautés vont excéder ces frontières administratives anciennes par le biais donc, de l'alliance ou des conquêtes. On va donc avoir ici un premier bloc avec à peu près, disons, trois ou quatre principautés importantes que je ne peux pas vous montrer ici. Par ailleurs, au nord-est, ici, donc, un autre bloc ici, et c'est le milieu du pays, si vous voulez, globalement, qui va être divisé en quatre parties, qui ressemblent un peu déjà à ce que nous avons ici. Alors, les grands blocs fonctionnent comme de véritables principautés autonomes, avec également, qui doivent composer avec d'autres acteurs qui ont été tentés de se mettre en place dans la première moitié du XVIe siècle, qui sont tout un tas de communes, de ligues, qui tendent à l'autonomie sous une forme, quelquefois la forme de cité, comme la ville de Sakai, la cité à marchande, ou des communautés religieuses. Alors, qu'est-ce qui va caractériser ces principautés? C'est justement, en l'absence d'une référence centralisée, l'établissement de lois spécifiques pour chaque principauté, hein, ce qu'on appelle ici des bunkokuho. Il se trouve que ces lois sont similaires parce que les seigneurs s'imitent les uns les autres, mais elles tournent toutes autour d'une... elles sont néanmoins donc applicables uniquement sur le territoire de la principauté et pas chez le voisin. La grande nouveauté va être d'abord l'organisation concentrique des liens vassaliques qui va se mettre en place. On a une sorte de re-féodalisation, re-vassalisation qui intervient avec d'abord la famille du seigneur, la famille proche, ses soutiens qui sont le plus souvent entre 20 et 30 pour des grands seigneurs, donc ce sont ces généraux si vous voulez, et les autres guerriers qui ont été conquis ou qui ont conclu des alliances, bon gré mal gré, face à la puissance militaire du voisin. La puissance économique de ces nouveaux seigneurs s'appuie sur des réformes fiscales, et notamment un cadastre, qui va leur permettre de récupérer de manière beaucoup plus précise des impôts et de mettre en place un système de conscription. Ils vont également construire des places fortes, hein, pour défendre justement leur territoire. Progressivement, entre les années 1560 et la fin du XVIe siècle, on va observer dans certaines de ces principautés un passage d'une vassalité patrimoniale en terre à ce qu'on pourrait appeler ici une vassalité stipendiée en titre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est assez simple. De manière assez progressive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que ça se fait comme ça partout massivement, les récompenses données par le seigneur à ses vassaux cessent d'être en terre que les vassaux doivent exploiter par eux-mêmes, pour devenir une sorte de salaire à hauteur du rendement théorique des terres qu'ils auraient obtenues. Je ne sais pas si c'est clair, je reviendrai éventuellement après là-dessus. Ce salaire va être adossé à l'obtention d'une titulature au sein de l'organisation seigneuriale. L'autre aspect de qui va régir donc ces principautés, c'est bien celui d'un contrôle accru des guerriers locaux, qu'on appelle des jizamurai, qui sont donc qui vivent au milieu des paysans, et qui vont être amenés à participer aux conflits armés, aux batailles, au sein de ces armées donc des princes, qui sont des armées d'un nouveau type, essentiellement constitués de fantassins, qu'on appelle ashigaru. Ces fantassins ne sont pas forcément des soldats permanents, mais sont convoqués au moment de la bataille et ont un statut intermédiaire entre les guerriers de bas rang et les paysans conscrits, hein, qui, eux, doivent être fournis selon un système précis. J'ai peut-être une chance de vous montrer ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. Donc, pourquoi faire la guerre? dans ce contexte. Je pense qu'on peut envisager au moins quatre raisons. La première raison, si on part de l'idée que ces principautés qui se sont dotées de lois spécifiques constituent autant de polities distinctes, on peut envisager une raison politique de guerre contre l'extérieur pour garantir la paix interne. Le voisin peut être menaçant et donc on va faire des sortes de guerres préventives ou des guerres de défense tout simplement contre l'agression du voisin. Mais également, et c'est ce qu'on constate le plus souvent, on peut imaginer des raisons transpolitiques qui seraient évidemment les conflits d'intérêts et d'alliances. Je fais la guerre parce que mon allié me demande de venir l'assister dans un conflit qui l'oppose à son voisin. Même si je ne suis pas directement ennemi avec le voisin, je suis apte à venir l'aider. C'est la situation souvent la plus dangereuse parce que l'allié ainsi convoqué peut, selon des tractations en amont, trahir son vœu et rendre la situation extrêmement complexe. En troisième point, on peut évidemment envisager des raisons économiques, et c'est ce qu'on constate avec certaines de ces principautés, notamment au nord, des polities plus pauvres que d'autres qui cherchent par période à s'enrichir. On le voit notamment avec une principauté qui est celle dite de Echigo, dont les actions militaires sont le plus souvent conduites en hiver. Et donc on retrouve ici quelque chose qui est presque de l'ordre des invasions vikings, si vous voulez, où on va essayer de se fournir en denrées à une période où les activités agricoles sont en berne et où de toute façon la région n'est pas particulièrement riche. Mais également, on peut imaginer, et c'est souvent le cas, des recherches de territoires intéressants. Une autre principauté qui jouxte celle dont je viens de parler n'a de cesse tout au long des années 1560 à 1580 de chercher un accès à la mer. Elle est coincée entre les deux côtes du Japon et elle cherche, finalement elle l'obtiendra au sud, mais elle cherche notamment au nord un accès vers l'océan. La dernière raison, je pense, peut être structurelle ou morphologique, dans le sens où les transformations sociopolitiques induites par les changements de législation et l'émergence de cette armée conscrite et de, entre guillemets, mercenaires, peut conduire à la multiplication des conflits pour occuper cette armée constituée, afin justement que l'armée et les soldats trouvent un intérêt dans la loyauté qu'ils peuvent manifester envers leur seigneur. Alors, je viens maintenant à ce dernier aspect, qui est donc celui de la course vers l'unification. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux de cette unification, on doit revenir à ce mot « tenka », qui désigne donc ce qui est sous le ciel. C'est un terme ancien qui renvoie au départ à l'État, c'est-à-dire au souverain et sa cour. C'est l'organe du pouvoir central. Et par extension, ce terme de Tenka, on est venu à désigner le lieu d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire la capitale Kyoto et sa région proche. Ce qu'on constate au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est un glissement progressif de cette notion de Tenka qui va de plus en plus être détachée de ses organes traditionnels du pouvoir pour devenir une sorte de concept supérieur de quelque chose qu'on pourrait s'approprier et qui donnerait ainsi un droit de gouvernement sur l'ensemble du pays. Et c'est notamment le premier des grands unificateurs, Oda Nobunaga, qui va opérer ce glissement du terme Tenka dans son discours, ses premières lettres. Il va parler de Tenka pour faire référence à Kyoto, au shogun, à la cour, mais assez rapidement il va se positionner lui-même comme pouvant détenir ce Tenka, voire même le déplacer hors de la capitale. Alors, la stabilisation qui s'est opérée progressivement a dégagé un certain nombre d'acteurs importants, et ces acteurs, dans les années 1560, atteignent ce qu'on pourrait appeler une forme d'équilibre. Ce qui va changer la donne, c'est justement l'émergence d'une branche cadette d'une famille qui est la famille Oda, qui se trouve au sud enfin au centre du Japon, dans une partie assez riche. La province dont il s'occupe, la province d'Owari, est une toute petite province. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. C'est là. Voilà. C'est cette petite province d'Owari que Oda Nobunaga, donc, qui est né en 1534, va entreprendre à partir des années 1560 de pacifier. Sur le modèle évoqué donc des principautés ordonnées par des lois, mais il ne va pas s'arrêter à la pacification de ce territoire qui lui appartient. Il va, malgré sa petite taille, très vite être engagé dans des conflits avec ses voisins immédiats. Et finalement, c'est son action perturbatrice qui va déclencher une rupture progressive de l'équilibre qui avait réussi tant bien que mal à se mettre en place au milieu du XVIe siècle. Je note également, comme je l'avais fait ici, que la majorité des seigneurs autour de 1570 ne sont plus issus des familles de gouverneurs de l'ancien système shogunal, mais sont au contraire des nouveaux venus pour dans leur majorité. Donc la fin de ce jeu polypolaire vient avec la montée en puissance d'Oda Nobunaga et l'unification de sa province d'Owari, victoire inattendue contre son voisin, et qui va donc perturber la situation homéostatique à l'est puis au centre. Ce qui va, en contre-coup, pousser Nobunaga à rechercher un ordre nouveau, une sorte de retour à la paix, et il va pour cela se tourner d'abord vers l'autorité traditionnelle, celle du shogun, et ensuite celle de la cour. Donc il se place d'abord comme un restaurateur du pouvoir shogunal et il va soutenir la réinstallation du shogun à Kyoto, ce qui va lui permettre d'ailleurs d'amener ses armées sur place. Cette volonté de restauration va bouleverser l'équilibre des forces à l'ouest et lancer donc une réaction en chaîne qui finit progressivement par toucher l'extrême ouest et le sud. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on observe quand on voit l'évolution année après année, c'est vraiment une évolution tous les jours ou presque, les choses changent, on voit des principautés du sud de Kyushu, qui étaient jusque-là assez calmes, entre guillemets, devenir beaucoup plus agressives avec leurs voisins et progressivement prendre le contrôle de la totalité de l'île. Il va se passer la même chose dans d'autres îles, comme celle de Shikoku, une petite principauté va progressivement, au fil des années, prendre le contrôle de la totalité de son île, sinon par mimétisme, du moins sans doute pas bousculé par le jeu des alliances et contre-alliances qui interviennent au centre du pays. Ce qui fait que les acteurs sont très progressivement réduits, de plus en plus réduits, au point où ils atteignent tous une taille critique dans leur sphère d'influence qui rend impossible le retour à la situation homéostatique précédente. Nobunaga meurt en 1582 en ayant achevé une première pacification du centre du pays, mais pas des périphéries. Cette unification va être immédiatement achevée, enfin progressivement achevée par un de ses vassaux, un de ses principaux vassaux, Toyotomi Hideyoshi, qui lui-même avait commencé comme fantassin. Simplement, Toyotomi va échouer à transmettre son patrimoine, le pouvoir qu'il aura donc conquis, ce qui va donner un nouveau conflit qui débouche cette fois sur la victoire de Tokugawa Ieyasu, qui était un allié, l'allié principal de Nobunaga dans sa conquête du pays. C'est ça qui est assez intéressant. Ieyasu n'est pas un vassal de Nobunaga, mais bien son allié, pas son égal, mais ils sont tous les deux sur le même plan, ou presque. La victoire de Tokugawa, en réalité qui est confirmée en 1615, annonce une période de paix qu'on appelle la Pax Tokugawa, qui va durer 250 ans, et simplement au titre de la postérité de cette époque Sengoku, il faut bien comprendre que l'établissement de cette loi, d'abord par Nobunaga, puis par Hideyoshi et enfin par Tokugawa, il s'agit essentiellement de non pas de revenir à l'ancien système shogunal, mais au contraire d'étendre au pays entier le nouveau modèle qui s'est développé au sein de chacune des principautés. C'est-à-dire que le pays va, à partir de ce moment-là, être gouverné comme l'était chacune des petites principautés, avec cette vassalité concentrique et surtout avec le passage des samouraïs à une position stipendiée. La victoire finale de Tokugawa à l'unification du pays passe évidemment par le démantèlement complet des principautés. Elles disparaissent au profit d'une myriade de petits fiefs de taille plus ou moins grande, on en compte à peu près 300, qui constituent toutes des entités beaucoup trop petites individuellement pour menacer directement le pouvoir central, mais dont les coûts de coalition sont et seraient également tout à fait, sont longtemps trop importants pour pouvoir menacer l'autorité centrale. Ce qui est assez notable, et c'est dommage que je n'ai pas pu vous montrer cette carte au final, c'est que toutes ces évolutions dont je viens de parler concernent assez peu l'extrême nord du Japon, qui reste morcelé et de petite taille, avec des principaux de petite taille pendant quasiment toute la période, avec très peu d'évolution. Et l'autre chose qu'il faut absolument noter, c'est que les ex-principautés qui n'avaient pas été vraiment conquises, ou qui s'étaient elles-mêmes étendues, notamment celles concernent toute cette partie, donc les clans ici donc de Shimazu, et puis ici on avait toute une famille, la famille Mori, qui avait donc établi sa principauté sur toute cette partie du Japon. Avec le déplacement du centre du pouvoir ici par Tokugawa, ce sont ces deux extrémités, ces parties situées à l'extrémité, qui seront à terme les ferments de la nouvelle guerre civile qui intervient en 1868 et qui va donc amener à la restauration du pouvoir impérial. Pour conclure, on pourrait donc présenter cette unification comme un phénomène quasi microsociologique, dans le sens où elle n'est pas au départ véritablement souhaitée par qui que ce soit, mais elle devient inévitable une fois qu'un élément perturbateur, ici Oda, pour des raisons qui lui appartiennent, qui mériteraient sans doute d'être encore développées, va perturber le système. Une fois qu'elle est lancée, elle devient donc inévitable et elle se double d'une volonté de ramener l'ordre et la paix en se dotant de nouvelles institutions issues des transformations structurelles nées de l'état de guerre. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps, mais je vais m'arrêter là, quoi qu'il en soit. Je vous remercie beaucoup.
Merci pour cet exposé tout à fait limpide, et on voit très bien comment le shogunat des Tokugawa émerge. Il y a un point qui me reste un peu obscur, si vous voulez. C'est le contraste extrêmement profond entre la phase antécédente d'une anarchie très profonde. Bon, tout de même, ils se battent pendant 150 ans, à peu près en permanence, et il y en a un qui gagne. Bon, il se trouve que c'est Ieyasu, je ne sais pas si je prononce bien, et puis tout est fini. Du moins, on a l'impression, vu de l'extérieur, que le calme est rétabli et il l'est pour 250 ans. Alors, il y a deux explications possibles. L'une, c'est qu'on attendait enfin la paix. Et donc, lorsqu'elle est devenue plausible, eh bien, on s'y est rallié, parce qu'on fait ouf, tout simplement. Ou bien alors, mais je ne sais pas très bien comment pour expliquer ça, un phénomène, si vous voulez, dans des liquides saturés, il suffit d'un petit quelque chose pour qu'il y ait une transition de phase et la mise en place de quelque chose de tout à fait nouveau. Autrement dit, est-ce que c'est un phénomène physique ou est-ce que c'est un phénomène moral ? Enfin, je pousse le trait, si vous voulez.
Oui, je pense que, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, c'est les deux. Je ne vois pas ici d'exclusion entre les deux aspects. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que le retour à l'ordre général était préparé en amont par le retour à l'ordre individuel de chaque principauté. Dans la mesure où les systèmes de contrôle sont les mêmes, finalement, on reprend la recette qui a fonctionné à l'échelle de la principauté pour l'étendre à l'échelle du pays. Il est tout à fait compréhensible que les autres acteurs se soient ralliés à ce nouveau système qui était finalement une reprise de ce qu'ils connaissaient déjà. Mais ça ne veut pas, le fait qu'il ne se passe rien Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les tensions ont complètement disparu. Et la résurgence du pouvoir dans le sud, donc Atsuosu et Satsuma, qui conduit à la réforme de Meiji, montre bien que ceux qui avaient déjà en amont, à l'époque précédente, obtenu un pouvoir assez autonome, ont quand même toujours continué, non pas en sous-main, mais à distance, de fonctionner un peu dans le calme, mais pas nécessairement la main dans la main avec le pouvoir central.
Oui, non, l'explication est tout à fait convaincante. Ce sont les expériences à l'échelle provinciale ou régionale et les élaborations politiques et institutionnelles qui ont permis d'aboutir à une stabilité tout de même très réelle pendant très longtemps. Bon, qui veut intervenir? Oh là, excusez-moi, j'ai pris M. Van der Merch. Oui.
Je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est sur le sens de Tenka. Vous disiez que ça devient un lieu de pouvoir. C'est un vieux terme. En Chine, donc, en chinois, c'est traditionnellement c'est ce qui est sous le ciel, et c'est lié à la conception du fils du ciel. Et donc, ça justifie le fait que le pouvoir impérial s'exerce sur la totalité de tout ce qu'il y a sous le ciel. Et je ne vois pas comment, au Japon, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment c'est devenu un lieu de pouvoir. Et j'ajoute que sur ce plan, donc en Chine, la transformation, l'abandon du concept de Tianxia est lié à l'arrivée de Ricci. Et une des choses qui ont le plus intéressé les Chinois, donc à la fin des Ming et quand Ricci arrive, ce sont les planisphères. Et c'est avec les planisphères de Ricci qu'ils se rendent compte que sous le ciel, c'est pas seulement la Chine, et qu'il y a bien d'autres pays, et que ces autres pays ne sont pas du tout soumis disons, au pouvoir impérial. Et donc, dans la mesure où, à l'époque des royaumes combattants, c'est au contraire le shogunat qui va l'emporter de plus en plus sur le pouvoir impérial, je vois pas, j'aimerais bien que là-dessus vous développiez un petit peu. Et l'autre question, je cite simplement la chose, est-ce que à l'époque des royaumes combattants, c'est pas également le moment de l'émergence du Bushido et qui va prendre au Japon, dans le sens politique japonais, toute l'importance qu'on sait?
Oui, alors il y a, je réponds à l'envers, hein. Donc l'émergence du Bushido, tout à fait, je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas vraiment mon propos. Il est évident qu'un des ciments de la nouvelle vassalité qui s'établit dans les principautés, c'est donc cette image d'une voix du guerrier. Bon, même si c'est un sujet assez délicat, savoir véritablement qu'est-ce que ça recouvre. Donc il y a, quoi qu'il en soit, donc une sorte d'obligation morale à la loyauté envers le seigneur, le suzerain, qui est réaffirmée à cette époque dans le cadre restreint de chacune des principautés. Cette question justement morale, c'est une des clés pour comprendre le glissement du sens, je pense, de Tenka, de Tianxia. Comme vous l'avez dit, donc, le terme existe en Chine, et dans le Japon antique, classique, il ne désigne pas un lieu, mais bien l'État incarné par l'organe du pouvoir qu'est le souverain. Et à partir du moment où cet organe du pouvoir est dédoublé entre souverain et shogun, le tenka, c'est toujours l'organe de pouvoir, souverain et shogun. Par glissement, si vous voulez, le pouvoir étant à Kyoto, à partir du moment où son influence périphérique diminue, le tenka diminue d'autant en termes de surface. Et donc on se retrouve à avoir cette vision du royaume qui est uniquement le centre du pays, centré donc sur la personne, sur la capitale et le shogun et le souverain. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'établissement du pouvoir politique au Japon, dès l'importation du système chinois, refuse la notion de révolution, hein, et donc de légitimation par le ciel du changement dynastique. Ça, c'est la hantise du gouvernement japonais. Or, ces grands princes de l'époque des Ruan combattants, et notamment Oda, lui va retrouver une forme de légitimation morale à son action, comme quoi il aurait le devoir de ramener l'ordre social et politique dans le Tenka, et par extension donc à tout le royaume. Donc c'est un retour, si vous voulez, enfin, ça n'est pas véritablement un retour à la pensée de la révolution, mais il y a effectivement chez ces princes une notion morale de devoir de maintien de l'ordre qui va donc s'étendre à tout le pays.
Qui avait demandé la parole? Ah, il y en a plein. Je ne sais plus quel était l'ordre. On a le temps, pas tellement. Non. Bon, ben je crois que c'est le jeune homme, j'ignore le nom, qui était le premier. Okay.
Monsieur Collinet.
Rapidement.
Très bien. Moi, je voudrais aborder la question religieuse dans ces conflits, notamment l'arrivée du christianisme à ce moment-là dans cette zone, et aussi le rôle des monastères dans cette guerre civile. Comment se comportaient-ils, comme des propriétaires terriens, finalement comme d'autres féodaux, ou plutôt avaient-ils une nouvelle conception du pouvoir et voulaient-ils la mettre en place?
Merci. Les chrétiens sont observateurs de cette situation. On a les jésuites qui sont présents. Ils sont très, à la fois apeurés et en même temps très contents de l'avancée de Nobunaga, l'observateur principal. Le père Freuss voit dans l'hégémonie de Nobunaga un signe divin qui va permettre à terme la conversion de tout le Japon. Certains des princes sont chrétiens. C'est notamment le cas des Otomo à Kyushu. Mais le christianisme lui-même ne joue pas un rôle décisif dans l'issue des batailles. Ce qui est essentiel, c'est que l'arrivée des jésuites et avec eux des marchands portugais amène des armes, en l'occurrence des mousquets ou des sortes d'arquebuses, qui va radicalement changer l'exercice militaire lui-même. La victoire d'Oda contre son voisin, pourtant très ancien et très puissant, tient essentiellement à son emploi novateur des fusils, qui va décimer l'armée de cavaliers de son voisin. Donc l'idée, c'est si vous donnez un fusil à un paysan, dans la mesure où il est loin et qu'il ne voit pas sa cible, il n'y a pas de question morale, il pourra tirer sur n'importe qui. C'est un peu l'idée d'Oda, qui arme comme ça des gens moins entraînés, mais avec une puissance de feu très importante. Donc c'est un peu une conséquence de l'arrivée des missionnaires. Quant aux acteurs religieux, comme vous avez tout à fait raison, ils sont des grands féodaux comme les autres. Ils ont des pouvoirs et ils font d'ailleurs partie des ennemis principaux d'Oda dans sa course à l'unification, soit les religieux traditionnels, soit la théocratie amidiste de Kenyo, qui est vraiment l'ennemi le plus important, un des ennemis les plus importants de Nobunaga.
Quelle question a déjà été posée?
Bon, Faladas Lebel, une question qui va dans le prolongement de la question du professeur Bechler. Vous avez bien montré le processus d'unification progressive qui débouche sur Ieyasu Tokugawa, et ça c'est une phase qu'on voit bien. La question qui se pose est-ce que ces diverses principautés résultent de l'éclatement d'un système précédemment unifié, auquel cas l'histoire du Japon serait une sorte d'alternance entre période d'unification et période d'éclatement, ou est-ce qu'on a plutôt un processus où on part de situations très diversifiées et qu'on débouche progressivement vers l'unification Tokugawa puis Meiji?
Très rapidement, oui et non. Oui, dans le sens où il y avait quand même une unification, c'est pour ça que j'ai parlé de guerre civile pour les années 1467, mais non, dans le sens où il ne s'agit pas de revenir à un système précédent. Et dans la mesure où les territoires des principautés ne correspondent pas nominalement, dans leur version étendue, au découpage administratif ancien. même si ce découpage reste de manière théorique jusqu'à la réforme de Meizhi.
Bien, merci. Bon, il faut passer au deuxième exposé, donc échanger entièrement de cadre temporel, historique, culturel, et pour nous occuper de la guerre de sécession qui, à certains égards, peut être considérée comme un modèle de guerre civile, mais ce n'est peut-être pas sûr. En tout cas, Florian Michel va nous expliquer ça. Il est maître de conférence à l'université de... Alors, comment ça s'appelle de nos jours? C'est plus Paris 1, c'est...
Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On tient à tous les termes du titre, malgré la nouvelle communication.
Bien.
Vous avez là le nouveau logo de notre université flambant neuf qui a 15 jours.
Bon, vous avez la parole en tout cas.
Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, le titre de ma communication est donc « La guerre de sécession, une seconde révolution, reconstruire l'unité nationale après la guerre civile ». C'était un peu dur de tout mettre en même temps dans le même titre, mais je tenais à chacun des termes, guerre de sécession, guerre civile, la question révolutionnaire et également la question de l'unité nationale et de la reconstruction. Le risque majeur que l'on prend en acceptant de traiter de la guerre civile aux États-Unis est d'être très vite enseveli dans l'immense bibliographie du sujet, tenue pour un moment refondateur des États-Unis contemporains. C'est, je cite un historien, l'événement de l'histoire américaine qui a fait et de très loin couler le plus d'encre et qui exerce depuis 150 ans une fascination continuée sur la société états-unienne. Tous les traitements historiques imaginables ont été appliqués. Et je voudrais prendre ce matin le risque ni de la synthèse, ni de la nouveauté, mais pas non plus celui de la noyade. Donc je n'entrerai ni dans le détail du militaire et de l'opérationnel, ni du diplomatique et du social. Tout cela serait en soi très intéressant. Je crains au passage, pour les spécialistes de la question, d'enfoncer quelques portes ouvertes. Mais je voudrais simplement proposer quelques éléments de réflexion aux politiques sur cette guerre civile, somme toute curieuse, très curieuse par rapport aux guerres qu'on a évoquées depuis ce matin, le curieuse dans la brièveté, 4 ans, alors qu'on a évoqué des guerres qui ont duré 100 ans, 150 ans, plusieurs siècles, et curieuse également par la violence, plus de 600 000 morts en l'espace de 4 ans. Et je voudrais donc tenter de répondre à l'invite de M. Bechler. En quel sens peut-on dire que la guerre de sécession a été une guerre constructive? Comment a-t-elle été l'occasion d'une consolidation politique de l'État fédéral? Et puisque, par définition de principe, la cité sur la colline ne saurait déchoir, comment, malgré les centaines de milliers de morts, a-t-on pu repenser l'unité et l'exemplarité de la cité au lendemain du conflit? Le terme constructif appelle aussitôt son proche parent sur le plan lexical et historiographique nord-américain, puisque la période qui suit immédiatement la guerre civile est appelée la reconstruction. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'a été la reconstruction. Il y a globalement deux phases qu'on appelle la reconstruction présidentielle, du temps d'Abraham Lincoln avant son assassinat, puis de son successeur Andrew Johnson, vice-président et donc successeur jusqu'en 1868. Il y a ensuite la phase radicale qui est menée par le Congrès jusqu'au compromis de 1877, une élection boiteuse qui accorde entre le Parti républicain et le Parti démocrate la majorité populaire aux républicains, mais aux démocrates, pardon, mais la majorité des grands électeurs aux républicains, étant et si bien qu'il y a là un compromis qui met un terme à la reconstruction. En 1865, l'Union est sauve, il reste toutefois à en repenser l'unité réelle. De 1865 à 1877, jusqu'à ce compromis, le Nord victorieux s'emploie dans ce dessein à reconstruire un nouveau Sud, modelé sur ses propres principes politiques, et le Nord, il faut bien le dire, ne néglige absolument aucun moyen. Occupation militaire du Sud, abolition des anciennes constitutions des États sortis de l'Union, éviction provisoire du personnel politique sécessionniste, adoption de nouvelles constitutions en vue de la réadmission dans l'Union, promotion de l'électorat africain-américain, élection d'hommes politiques issus des rangs républicains, et le Congrès met au point tout un arsenal législatif qui entend déconstruire et reconstruire le Sud défait par les armes. Des cendres de la vieille Géorgie incendiée par le général Sherman devaient naître un Sud moderne, sans esclaves, républicain. Hélas, n'éclos seulement qu'une situation extrêmement confuse. Les Africains américains sont certes désormais membres du corps politique, libres et égaux en droit, mais dans les faits, ils sont pour la plupart analphabètes, ségrégés et privés de toute possibilité d'exercer le droit de vote qui leur a été accordé. Les républicains élus dans le Sud dans les années 1866-1874 sont balayés par les démocrates, qu'on appelle les rédempteurs, et à partir de 1875, il faut ajouter à cela en outre que l'historiographie de la Reconstruction, qui est globalement méconnue en France, puisque les principaux ouvrages n'ont pas été traduits dans notre belle langue, et donc cette historiographie de la Reconstruction est un dossier très sensible, puisque les historiens favorables au Sud n'ont cessé de dénoncer avec les échecs de la Reconstruction, ce que l'on appelle les carpetbaggers, c'est-à-dire les républicains du Nord qui descendent dans le Sud et qui s'accaparent les richesses du Sud, et en même temps dénonçant les scalawags, les collabos du Sud, qui pillent les richesses auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. À l'échelle fédérale, la guerre de sécession voit donc certes la préservation de l'Union des États-Unis, la libération de 4 millions d'esclaves et l'adoption de 3 amendements constitutionnels, j'y reviendrai, qui devaient graver dans le marbre de la loi fédérale les gains politiques du conflit. Mais ces 3 mêmes amendements, qui sont supposés être la pierre de touche de la maison commune reconstruite, vont être très vite contournés par des lois locales, de sorte que sans qu'il s'agisse d'un retour au statu quo antebellum, la guerre de sécession a pour principale conséquence d'abolir l'esclavage pour mieux fonder la ségrégation qui, on le sait bien, va durer jusqu'aux années 1950-1960. La reconstruction présidentielle et radicale se heurte donc à des résistances locales invincibles qui se traduisent bientôt en un rapport de force politique favorable au Sud. C'est une première porte ouverte enfoncée, la Cour suprême en 1896, dans le fameux arrêt Plessy versus Ferguson, valide ainsi à l'échelle fédérale le principe de la ségrégation, égaux mais séparés, et semble entériner l'idée selon laquelle, si le Nord a gagné la guerre, le Sud, lui, a gagné la paix. Mon propos, concrètement, voudrait s'organiser autour de 2 grands points. Dans un premier temps, je voudrais préciser les diverses appellations de la guerre, évoquer quelques pistes pour qualifier le conflit. Mon hypothèse est que la guerre civile, on l'a évoqué ce matin à travers d'autres exemples, mon hypothèse est que la guerre civile est pensée au Nord comme une querelle domestique, comme une querelle intrafamiliale. Sur le terme domestique, pour préparer cette communication, je me suis aperçu qu'il était employé à 2 reprises dans la Constitution américaine à propos de la paix domestique, puis un peu plus tard de la violence domestique. Il y a là un usage qui est peu commun, me semble-t-il, dans le vocabulaire constitutionnel, en tout cas français. Et c'est cet adjectif-là que je voudrais employer pour qualifier la guerre de sécession. Et il me semble que précisément le premier enjeu de cette guerre de sécession, c'est l'héritage exact des pères fondateurs. Et tout l'objectif de la reconstruction est précisément de ressouder au lendemain de la guerre la famille. Dans un deuxième moment, je voudrais évoquer les enjeux constitutionnels de la guerre, puisque cette approche me semble fondamentale, à la fois en amont du conflit, pour comprendre l'intelligence des États sécessionnistes. J'aime beaucoup cette formule d'un juriste de Charleston, donc en Caroline du Sud, qui disait, donc il s'appelle James Louis Petitgru, qui disait dans une formule célèbre, « La Caroline du Sud est trop petite pour être une république, mais elle est trop grande pour être un asile de fous. » Et il me semble qu'en aval de la guerre de sécession, il faut aussi poser la question constitutionnelle, puisque la guerre de sécession permet une liquidation et une renégociation des compromis fondateurs de la nation. Et il me semble que la guerre civile révèle en ce sens les effets, les ambiguïtés du régime fondé lors de l'indépendance que la Constitution de 1787 avait permis de contourner. Donc ça va être une histoire assez textuelle, vous allez voir, et en tout cas, dans un premier temps, je voudrais préciser cette qualification de la guerre civile. On trouve des appellations circonstancielles sur lesquelles je n'élaborerai pas, guerre de la rébellion ou guerre de l'union que l'on trouve parfois dans les sources, mais il existe principalement 2 désignations coutumières et classiques pour nommer la guerre interne aux États-Unis d'Amérique. Donc je redis le contexte, hein, avril 1861, avril 1865. Cette guerre oppose 2 armées, l'armée fédérale des États-Unis d'Amérique, c'est le nom de l'État, qui est en abrégé l'Union, le Nord, les Yankees, Et de l'autre côté, vous avez l'armée du gouvernement des États confédérés d'Amérique, plus classiquement le Sud, ou bien les REBS, les rebelles. On parle donc classiquement soit de la guerre de sécession, soit de la guerre civile, civil war en anglais, et les deux désignations ne mettent pas l'accent sur les mêmes perspectives. Le terme guerre de sécession, très classique dans l'historiographie française, le renvoie à ce qui, dans le Nord, est tenu pour l'acte causal du conflit, c'est-à-dire la sécession en décembre 1860 de l'État de la Caroline du Sud, qui est un acte juridique et souverain d'une convention élue, sécession qui est suivie de la sécession de 10 autres États du Sud et qui vont unilatéralement décider entre janvier et mai 1861 de sortir du contrat constitutionnel de 1787. Pourquoi sortent-ils? J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ils estiment que ce contrat constitutionnel a été rompu par le Nord et par l'élection révolutionnaire, le terme est évidemment entre guillemets, d'Abraham Lincoln à la présidence en novembre 1860. Par leur sécession, ces États mettent un terme à l'union plus parfaite, c'est le préambule de la Constitution, et mettent un terme, d'une certaine manière, au projet politique, mais un terme provisoire, au projet politique que les pères fondateurs avaient voulu créer. L'usage du terme « guerre de sécession » est devenu banal. Au sens strict, il attribue la responsabilité du conflit au Sud. C'est, pour le dire par une comparaison, c'est comme si on appelait la guerre de 14-18, la guerre de Sarajevo, ou bien la guerre de l'assassinat de François Ferdinand, etc. C'est vraiment une désignation qui fait porter le chapeau du conflit au Sud. Et cette sécession n'est évidemment pas première dans l'ordre événementiel, elle n'est elle-même qu'un effet d'un enchevêtrement d'autres causes. Deuxième terme, très classique également, c'est bien sûr celui de guerre civile. Il est plus neutre, il présente l'avantage de décrire non plus une cause seule, mais la réalité du conflit dans sa géopolitique, dans ses racines, dans ses aspects les plus concrets, puisque la guerre civile met aux prises non pas deux peuples partageant le même territoire, ni deux confessions, mais deux entités géographiques, culturelles, c'est comme ça qu'on l'a pensé un certain temps, deux sections dans le vocabulaire de l'histoire américaine, la section du Sud et la section du Nord, qui puisent, et c'est là l'important, aux doubles origines communes de la colonisation britannique et de la Révolution américaine. Une fois cela dit, il faut ajouter aussitôt que dès 1861, le Sud refuse de penser la guerre comme une guerre civile. Dans sa perspective, il s'agit très nettement d'une guerre entre deux entités politiques indépendantes, distinctes et légitimes, ce sont les termes qui sont employés à l'époque, l'une, première entité confédérale, le Sud, et l'autre, fédérale, le Nord. Le Sud souligne plus que de raison, plus que nécessaire, qu'il s'agit d'un conflit entre, je cite, deux civilisations opposées. C'est le combat d'une culture contre une autre culture, du fait d'un schisme. Là encore, le terme est employé. D'un côté, au Sud, vous auriez une civilisation aristocratique, fondée sur l'esclavage, l'institution particulière, comme on dit poliment, fondée sur la terre, la propriété, les armes, la carrière militaire, le charme et l'élégance moussue des grandes demeures du Sud, contre, au Nord, la civilisation industrielle fondée sur la valeur individuelle, l'esprit démocratique, l'abolition de l'esclavage. Dans l'histoire nord-américaine, dès Tocqueville, et même en fait avant Tocqueville lui-même, on accepte volontiers, trop volontiers sans doute, une série d'oppositions frontales où la Virginie et les Carolines se dresseraient contre la Nouvelle-Angleterre. C'est le combat de l'homme du Sud, grand propriétaire ou petit blanc, je paraphrase Tocqueville, qui aime la chasse et l'oisif aisance, contre le Yankee, dont la prétention démocratique n'a d'égal que sa cupidité bourgeoise et son âpreté au gain. On trouve des expressions incroyables avec le recul de l'histoire, notamment il y a un Français présent en Virginie qui s'appelle Édouard Lacouture, qui ne s'embarrasse absolument pas de nuances et souligne ainsi en 1861, je cite, « la différence absolue des races qui peuplent le territoire des États-Unis. Au Sud, on trouve, dit-il, des races gallo-romaines, au Nord des Anglo-Saxons. » Si, évidemment, on entre dans la ligne d'interprétation de la guerre de sécession comme étant un conflit entre deux civilisations, ou même entre deux formes de la même civilisation, on ne peut plus penser la guerre civile elle-même. Les contemporains qui partageaient pour partie les postulats de cette guerre de civilisation, ouvre cette perspective discutable dès 1861 de ce qu'on appelle la sécession paisible. Ce sont des articles que l'on trouve notamment dans le New York Times, « A peaceable secession », une sorte de révolution de velours entre les deux grandes sections, devenues étrangères l'une à l'autre, mariées par la nécessité, non par la raison ou le désir, au temps de la révolution américaine. Il y a, après tout, dans l'histoire du monde, des sécessions réussies, des modèles de séparation. Je viens d'employer le terme de révolution de velours pour la Tchécoslovaquie, mais on trouve d'autres exemples, la Norvège et la Suède, ou plus discutable, l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Il n'empêche, il me semble que la question mérite en tout cas d'être posée. Elle a été posée à l'époque, et si on a répondu par la négative, si le divorce à l'amiable, ou comme on disait dans le vocabulaire des années 1860, un partez en paix n'a pas été possible, c'est que précisément il n'était pas pensable. Pourquoi n'est-il pas pensable? La Constitution américaine elle-même le stipulait très nettement dans son premier article. Je donnerai toutes les références des articles et des sections dans la communication écrite, mais ce premier article, on trouve l'interdiction de la sécession et de la confédération. Donc, il ne faut certes pas gommer les différences sociopolitiques entre les deux sections, mais à mon sens, il ne faut pas aller trop avant dans la singularisation du Nord et du Sud. Reprendre une formule de Jacques Maritain que j'aime bien, il faut toujours distinguer certes, mais pour mieux réunir par la suite. Puisque les deux sections appartiennent à la même ère culturelle anglo-saxonne, elles ont été façonnées par la même tradition politique qu'aucune des deux n'entend concéder à l'autre. C'est en effet sur une autre ligne logique qu'il faut tenir la guerre civile, qui est en fait, je le soulignais en introduction, à penser comme une guerre domestique, et pour le dire crûment, comme une querelle d'héritage où l'on se déchire pour un patrimoine. Un tout petit peu plus loin, il me semble que l'on peut dire que la guerre de sécession est une guerre en vue de la liquidation de compromis hérités, qui renvoie à la relecture et à la réception de la Révolution américaine. Puisque les deux sections revendiquent le même héritage des pères fondateurs, la guerre a véritablement pour enjeu de savoir qui est l'héritier le plus légitime. Telle est, à mon sens, la cause de la radicalisation du conflit. Il s'agit d'achever, de redéfinir la portée et l'interprétation de la Constitution de 1787. C'est en ce sens que l'on qualifie souvent dans l'historiographie la guerre civile de seconde révolution américaine. Certains historiens parlent de révolution bourgeoise, à mon sens c'est pas très convaincant, menée, je les cite, par la bourgeoisie industrielle du Nord contre l'aristocratie terrienne du Sud. À mon sens, c'est plus sûrement une révolution dans la révolution, qui n'est pas pour autant une contre-révolution, mais simple choix de l'une des puissances de cette révolution et affinement démocratique à l'intérieur du même paradigme politique. Avant la guerre révolutionnaire, donc 1775-1781, il y a 13 colonies disjointes qui parlent certes la même langue et prêtent toute allégeance à la même monarchie anglaise, mais il n'y a pas de conscience commune, ni de sentiment d'unité, ni d'identité nationale, dont le creuset est précisément la guerre de 1775-1781, qui va joindre les 13 colonies en un tout organique autour d'un congrès continental et d'une armée continentale dirigée par Washington, selon l'impératif d'alors « join or die ». Donc soit vous joignez la dynamique continentale, soit vous périrez. Les traits des deux sections évoquées, celle du Nord et celle du Sud, qui s'opposent pendant la guerre civile, jouaient en fait dès avant la Révolution. L'union n'est réalisée que dans l'opposition à la monarchie britannique. Il s'agit d'une union par défaut, le « or die » de ce que je viens de rappeler. Cette union par défaut nécessite aussitôt une série de compromis pour que chaque ancienne colonie puisse conserver son caractère propre. Je passe un petit peu sur les compromis fondateurs. Ça concerne à la fois l'institution présidentielle, la représentation au Sénat, et ça concerne également l'esclavage avec cette règle des 3/5 qui prévoit que chaque esclave, dans le calcul de la démographie fédérale, compte pour 3/5 d'un homme blanc. Et évidemment, c'est une position de compromis qui est ni bonne ni mauvaise à l'époque, qui permet simplement l'union. Je voudrais maintenant entrer dans quelques exemples pour penser la domesticité de ce conflit. Je voudrais prendre 4 exemples. Un discours de Lincoln, célèbre, celui sur la maison divisée, un tableau du temps de la Reconstruction, un extrait des mémoires du général Grant, et je voudrais vous présenter quelques extraits, des captures d'écran du film La naissance d'une nation, The Birth of a Nation, de 1915. Alors, premier élément que je voulais vous présenter, le discours de Lincoln du 16 juin 1858, c'est un discours qui va passer, qui a une grande importance sur le plan historique. C'est le discours de la maison divisée qui reprend une formule de Saint-Marc, donc chapitre 3, verset 35. « Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se tenir. » Le passage en anglais, je le traduis rapidement. « Une maison divisée contre elle-même ne peut rester debout. Je crois que ce régime de mi-esclavage, mi-liberté ne peut demeurer de façon permanente. Je ne pense pas que l'Union sera dissoute. Je ne pense pas que la maison s'écroulera. Mais j'espère bien qu'elle cessera d'être divisée. Elle deviendra soit entièrement libre, soit entièrement esclavagiste. Soit les adversaires de l'esclavage le cantonneront dans des limites telles que l'opinion publique demeurera convaincue qu'il est en cours d'extinction. Soit ses partisans parviendront à l'étendre jusqu'à ce qu'il devienne légal dans tous les États, anciens comme nouveaux, du Nord comme du Sud. » Ce qui est à retenir de ce discours de Lincoln, c'est bien sûr l'image de la maison divisée. On pense la République comme un cadre de maisonnée, et c'est bien sûr l'image de la division également, double division entre les États nouveaux et les États anciens, entre le Nord et le Sud. Les deux divisions ne se superposent pas. Vous avez des États nouveaux dans le Nord, par exemple l'Illinois, le Kansas, l'Indiana, vous avez des États nouveaux dans le Sud, le Texas, vous avez le Missouri, vous avez toute la série d'États, et en même temps, les nouveaux États se divisent, les anciens États se divisent entre Nord et Sud, donc la division est clairement double. Pour Lincoln, à cette époque, il s'agit de savoir si les nouveaux États de l'Ouest seront plutôt sur le modèle du Nord ou plutôt sur le modèle du Sud. Ce qui est intéressant, je ne développerai pas trop ce point, c'est la non-réponse qu'apporte le grand contradicteur de Lincoln à ce discours de 1858, le fameux juge Stephen Douglas, qui va gagner l'élection dans le cadre Lincoln a prononcé ce discours, et Douglas ne réfute pas l'image de la maison. Il réfute la nécessité de liquider la division en disant « Nos fondateurs, nos pères fondateurs ont construit une maison divisée, elle est à conserver telle qu'elle. » Le deuxième élément que je voulais présenter, c'est ce tableau de Winslow Homer que l'on trouve à Boston, qui date de 1874. Quel rapport avec la guerre? A priori, absolument aucun. On est là dans un cadre champêtre et idyllique. Mais précisément, le tableau date de la période de la Reconstruction. C'est le général Grant qui est alors président. Et on fait de manière régulière une lecture symbolique de ce tableau, au sens où l'on considère ces deux garçons dans un pré comme deux frères vivant en paix, observant le futur dans la tranquillité d'une nature champêtre ordonnée, sans le moindre orage à l'horizon. Après le cataclysme de la guerre, il s'agit de reconstruire la nation à la fois sur le plan politique et sur le plan pictural, symbolique, en une forme de retour à la normale. Les tableaux de Homer sont, je trouve, très, très illustrants de ce phénomène. Vous en avez un autre là, des plages donc, du New Jersey, où on insiste, 4 ans après la guerre, sur les loisirs, sur la féminité, sur ce bord de mer et un certain mode de vie très loin, très éloigné naturellement du conflit. Le troisième élément que je voulais présenter, le renvoie à l'incipit des mémoires du général Grant qui sont rédigées en 1884-1885. Le Grant caractérise dans ce premier chapitre l'identité native et nativiste de sa famille américaine. C'est le titre de ce premier chapitre, Une famille américaine. Alors c'est tout à fait passionnant parce qu'il explique qu'il est américain depuis les pères fondateurs, depuis les pères pèlerins, depuis le Mayflower, 1620 pour le Mayflower, mais les ancêtres du général Grant n'arrivent qu'en 1630. Et ce qui est intéressant, c'est que l'identité de cette famille passe par l'histoire, passe par la guerre, guerre contre les Français, guerre contre les Indiens, guerre de la Révolution et guerre de la Sécession. Et il explique qu'au fond, sa famille est parfaitement américaine parce que précisément, elle est divisée pendant le conflit. Alors, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un oncle et un cousin du général Grant sont en faveur de l'Union, quand sa tante et presque tous ses enfants en Ohio sont en faveur de la Confédération. Et quand on regarde bien le témoignage du général Grant, non seulement la division passe entre les oncles et les tantes et les oncles et les neveux, mais entre les enfants et leurs parents eux-mêmes, puisque la tante du général Grant qui est en faveur du Sud à un enfant qui, lui, est en faveur du Nord. Et si on pousse un tout petit peu plus loin encore cette américanité de la famille de Grant, c'est que non seulement la ligne de démarcation passe entre les familles, à l'intérieur des familles, mais également à l'intérieur de chacune des sections. C'est un paradoxe, c'est la famille dans le Nord qui est en faveur du Sud, et c'est la famille du Sud qui est en faveur du Nord. Vous vous imaginez un petit peu le cadre, les réunions de famille sympathiques que l'on devait organiser. Donc, vous avez là la ligne de division qui ne passe pas seulement entre les États esclavagistes et abolitionnistes, ni seulement sur la ligne de front et sur les cartes des États-majors, mais à l'intérieur de chaque famille réellement américaine et à l'intérieur de chaque section. Le quatrième exemple que je voudrais développer, c'est celui de ce film The Birth of a Nation, qui date de 1915, qui a un succès prodigieux. C'est un film muet qui dure plus de 3 heures, il est projeté à la Maison Blanche, son impact culturel est extrêmement important. Et quand on regarde le film, on est frappé par l'histoire. D'abord, il s'agit de deux fratries, l'une du Nord, l'autre du Sud, qui sont, avant la guerre, unies par les liens tendres de l'amitié et de l'amour, et déchirées par la guerre. Alors, je ne vais pas faire tomber le suspense, mais ça se conclut tout de même par deux mariages après la guerre de sécession. Il y a un certain nombre, évidemment, d'enfants des deux familles qui sont tués. Et je passe tout de suite à l'une des dernières scènes du film, où vous voyez le fils d'une Sud, qui est en fait un leader du Ku Klux Klan, qui épouse une fille du Nord, elle-même fille d'un républicain abolitionniste. Et d'une certaine manière, c'est la naissance de cette nation, c'est la réconciliation conjugale entre le Nord et le Sud, et d'une certaine manière, ça devient tout à fait compliqué à penser si l'on ne recourt pas à des catégories religieuses, à un certain sacré qui vient fonder l'unité nationale aux États-Unis. La dernière image du film, presque la dernière image, c'est celle-là, où l'on voit le Christ qui s'élève de la société américaine réconciliée après le mariage. Et la dernière image, véritablement, c'est celle-là, où on voit le couple précédent, le Nord et le Sud, l'abolitionnisme et l'esclavagisme, contemplant la Jérusalem céleste dans une réhabilitation, finalement, du projet fondamental de la cité sur la colline. Évidemment, il manque des éléments fondamentaux pour penser cette réunion. Les Noirs sont totalement exclus, et ce n'est pas la dernière scène, mais enfin, c'était une des dernières scènes du film où on voit le Ku Klux Klan interdire aux Noirs d'accéder aux urnes. Donc cette réconciliation, cette réunification, elle se fait naturellement dans l'exclusion. La guerre civile est tenue par Lincoln pour une guerre non pas entre deux civilisations, mais à l'intérieur de la même maison, entre deux membres de la même famille, que ni la religion ni l'esprit partisan ne devaient séparer en principe. La guerre est fratricide du fait d'une lecture unilatérale et contraire à des passages complexes du testament révolutionnaire. Alors, j'avais trouvé d'autres passages de Lincoln que je voulais vous citer, mais je voudrais vous présenter de manière assez schématique les enjeux constitutionnels de la guerre à travers trois grands ensembles documentaires qui permettent d'illustrer ce moment de l'histoire américaine comme une forme de conflit entre Washington et Washington lui-même. Je m'explique. Vous avez là deux timbres. Un timbre des États-Unis d'Amérique, donc le Nord, et un timbre du Sud, donc les CSA, Confederate States of America. Et les deux États revendiquent de la même manière le même héritage, la même figure, et les timbres, la philatélie, me semble-t-il, en témoignent volontiers. Alors, les trois ensembles documentaires, je vais les évoquer succinctement, rassurez-vous, mais il y a, dans un premier temps, ce que l'on appelle la déclaration sur les causes immédiates de la sécession, qui est un document qui date du mois de décembre 1860, immédiatement après l'élection de Lincoln, et c'est un texte juridique absolument passionnant, puisqu'il y a trois arguments qui sont développés dans le texte. La Caroline du Sud a le droit de se retirer de la fédération, puisque dès l'origine, dès la déclaration de 1776, dès les articles de confédération qui sont les premiers temps de l'histoire constitutionnelle des États-Unis, les États sont tenus pour des États souverains, indépendants, distincts les uns des autres. Et c'est au nom de cet héritage constitutionnel, parfaitement mis en valeur par la Caroline, qu'on légitime un droit à la sécession. Le deuxième argument mis en place par les juristes de la Caroline du Sud concerne l'article 4 de la Constitution américaine, article qui n'est en aucun cas observé par les États du Nord et qui concerne l'esclavage. Il est prévu à ce moment-là que les États du Nord respecteront la propriété des esclaves dans le Sud, qu'il y aura un droit de transit, qu'il y aura un droit de poursuite, et les États du Nord, de manière systématique, eh bien, refusent d'appliquer cet article 4 de la Constitution. Le dernier argument développé par la Caroline, c'est l'élection de Lincoln. Alors, c'est le plus contestable de cette argumentation, une élection révolutionnaire. Lincoln a été élu exclusivement que par des délégués issus des États du Nord. Il n'y a aucun État du Sud qui a contribué à son élection. Et d'une certaine manière, la constitution du Parti républicain vient poser un certain nombre de difficultés, naturellement, pour les États du Sud, puisque la division sectionnelle recoupe cette fois une division partisane. Jusqu'à présent, les deux partis avaient réussi à trouver des soutiens dans le Nord et dans le Sud. Alors, il faudrait avoir une approche très textuelle pour bien montrer la filiation entre les textes et pour voir comment tout cela se déplace dans les documents. Le deuxième ensemble documentaire que je voulais présenter concerne cette constitution de 1861, document peu connu, me semble-t-il, dans l'historiographie française. Les États-Unis confédérés, quand ils sont créés, ils passent naturellement par un processus constitutionnel. Et en quelques semaines, il y a une nouvelle constitution qui est validée par le Congrès du Sud, qui date de mars 1861. Et de la même manière, cette constitution de 1861 va emprunter à la constitution de 1787 un certain nombre d'éléments. Et alors, j'ai essayé de le faire aussi clairement que possible, je ne suis pas sûr d'y être arrivé, mais mettant en parallèle la constitution de 1787 et la constitution de 1861, simplement sur le texte du préambule. Et vous avez en normal les éléments qui sont repris dans les textes de 1787 et 1861, les éléments communs, et en gras et en italique, les éléments qui sont changés. Alors, il faudrait commenter chacun des changements, puisque précisément, ce sont dans ces changements qu'il faut relire le projet constitutionnel et le projet politique des États-Unis confédérés. Je vais juste donner quelques exemples. Les confédérés ne pouvaient pas conserver la formule de former une union plus parfaite alors qu'ils venaient de déclarer la sécession. Et ils ont changé la formule en le rappelant la souveraineté, le caractère souverain et indépendant de chacun des États, formule qui est en fait extraite de la déclaration d'indépendance de 1776. Donc vous avez une forme de copier-coller entre et de mixtion entre la constitution de 87, la déclaration d'indépendance, qui parvient à la production de ce texte de 1861. Alors, on pourrait faire ça sur chacun des articles. Je vous épargne la démonstration. Il y a simplement quelques éléments que je voudrais souligner. L'esclavage dans le texte constitutionnel de 1861 est répété de manière constante. Il y a une dizaine d'occurrences du terme « slave »,« slavery » dans le texte de 1861, alors que dans le texte de 1787, on n'en trouvait que des allusions. On le désignait, l'esclavage, que sous forme de périphrase. Par exemple, dans une phrase, les personnes libres, et fin de la phrase, les autres personnes, sous-entendu bien sûr les esclaves, mais ils n'étaient pas désignés tels quels. Donc, la constitution de 1861 est une forme de clarification excessive de la constitution de 1787. On trouve également une conséquence pratique de cette constitution dans l'art sudiste de la guerre. C'est la thèse d'un certain nombre d'historiens qui explique que le Sud a été en fait victime d'un excès de démocratie et que c'est cet excès de démocratie qui est à l'origine de la défaite du Sud. Alors évidemment, c'est un petit peu rapide, un peu simpliste, il y a tout un tas d'autres causes qu'il faut faire entrer en ligne de cause, en considération, mais l'argument est vérifiable sur un certain nombre de plans. Par exemple, j'en prendrai qu'un, celui de l'imposition. Il y a 4 fois moins d'imposition fiscale dans le Sud que dans le Nord pour financer la guerre. Pourquoi ? Parce que les États du Sud n'avaient pas du tout l'intention d'être privés de leur liberté, alors que précisément ils se battaient pour la liberté. À l'arrière-plan, il y a un vieux problème de philosophie politique. Comment mener une guerre quand on est dans une situation de confédération, chacun des États entendant conserver une bonne part de sa marge de manœuvre, de sa liberté. Le dernier élément que je voulais évoquer, oui, peut-être avant d'en venir là, citer cet argument donc, pour vous montrer sa force. Dans l'administration de l'armée sudiste, je cite un historien, dans l'administration de l'armée sudiste, dans la gestion des affaires civiles sudistes, dans la conduite de la vie politique sudiste, on dispose d'assez de preuves pour écrire sur la pierre tombale de la Confédération, morte de démocratie. Donc vous avez là l'illustration la plus brève et radicale du propos que je voulais amener. Le dernier élément que je voulais évoquer concerne un fait bien établi. Il s'agit des trois amendements constitutionnels datant de la Reconstruction et de leur contournement. D'une certaine manière, on assiste au Nord au lendemain de la guerre de sécession, au processus équivalent et en symétrique inversée, en quelque sorte, de celui de la Constitution de 1861, puisque ces trois amendements sont précisément une réécriture de la Constitution de 1787, mais non pas une réécriture par intertextualité, mais une réécriture par amendement, qui sont en fait... Le terme amendement, il y a quelque chose d'un petit peu... on imagine une correction légère. Non, il s'agit de la suppression de passages entiers de la Constitution de 1787 et d'une réorientation complète du projet républicain. Alors, j'avais envisagé de faire une comparaison minutieuse entre les amendements, donc le 13e, le 14e, le 15e, donc qui datent successivement de 1865, 1868, 1870. C'est là une trame historique évidemment assez examinée. Concrètement, le premier amendement abolit l'esclavage, le deuxième amendement accorde la citoyenneté aux anciens esclaves, et le dernier amendement accorde aux affranchis le droit de vote. Plus précisément, il explique que pour aucune raison de race, de couleur, d'ancienne servitude, on ne peut dénier le droit de vote aux anciens esclaves. Trois amendements en cinq ans, il y a là quelque chose, et on voit bien la progressivité d'une certaine manière de ces trois amendements, il y a là quelque chose d'assez lent et d'assez prudent qui en soi témoigne de la difficulté de cette reconstruction aux États-Unis. Conclusion. Il y aurait bien sûr simplisme à conclure que la guerre civile se réduit à 620 000 morts et à trois amendements constitutionnels bientôt contournés. L'acquis essentiel de la guerre, outre l'abolition de l'esclavage, est à mon sens le renforcement de l'Union autour de la capitale Washington, de la Constitution réformée et de la figure d'Abraham Lincoln, homme d'État magnanime, érigé en nouveau père de la nation, dont l'éloquence sut trouver les mots nécessaires pour panser les plaies de la guerre civile et, je le cite, « envisager une paix juste et durable entre nous-mêmes et avec toutes les nations ». Lors de son ultime discours public, le 11 avril 1865, quelques jours avant son assassinat, Lincoln souligne encore, je le cite, « son espérance pour une paix rapide et fondée sur le droit » et refuse, c'est très étonnant, de s'interroger, je le cite, « sur la question de savoir si les États, soi-disant sécessionnistes, sont dans l'Union ou en dehors de l'Union, puisque, dit-il, cette question est par excellence porteuse de division. Lincoln invite désormais à ne plus réfléchir entre un dehors et un dedans de l'Union, mais à réfléchir sur une relation pratique convenable, c'est encore une citation de Lincoln, entre l'Union et les États, soi-disant sécessionnistes. Par la violence du conflit, qui fut, de l'avis de quelques historiens, je cite, « la plus civilisée des guerres civiles », au sens très étroit, où le plus souvent la guerre civile reste dans les limites du droit de la guerre, sans jamais dégénérer en guérilla et en représailles. Bon, l'historien qui dit ça oublie quand même au passage la descente du général Sherman, qui brûle la moitié de la Géorgie d'Atlanta jusqu'à la côte. Et il me semble que l'on peut dire que la guerre civile aux États-Unis revêt un effet cathartique. Les tentations centrifuges, sécessionnistes ou confédérales, qui existaient dans la Grande République depuis son origine, sont non seulement éteintes, mais périmées, discréditées pour longtemps. L'héritage équivoque, objectivement, des pères fondateurs, a été tranché par les armes. Son domaine, l'héritage des compromis, son domaine d'application, se trouve suspendu. On en veut pour signe l'ouvrage intitulé, avec bravache, « I'll take my stand », donc littéralement « J'occuperai ma position », qui est un extrait de l'hymne de la Confédération, le fameux « Dixie ». Donc, « Je tiendrai ma position » est un ouvrage publié en 1930 par 12 hommes du Sud, « Southerners », comme le titre l'indique, qui sont objectivement des réactionnaires et qui écrivent en introduction, je les cite, « Personne ne songe maintenant pour le Sud ou pour une autre communauté de ce pays à une destinée politique indépendante. Cette idée s'est achevée en 1865. Finished. Le projet possible de confédération est désormais épuisé. L'équivoque des pères fondateurs n'est pas caduque, à mon sens, pour autant. Il ressurgit périodiquement quand on fait mine de se souvenir que les pères fondateurs avaient des esclaves, qu'ils n'avaient pas voulu abolir l'esclavage, simplement le réduire, le restreindre, et sinon également à l'échelle individuelle, comme Washington, qui, on le sait bien, a libéré ses esclaves sur son lit de mort. Et, ou alors on s'en souvient de cet équivoque lorsqu'on a le mauvais goût de soulever à nouveau ce que Lincoln appelle les chicaneries en 1858 pour savoir si les Noirs sont inférieurs ou égaux aux Blancs. C'est une non-question, ce n'est pas important, tout cela c'est simplement essayer de raviver les braises sous la cendre. Désormais, le mythe du Sud et de la cause perdue, tout en conservant un fantôme de réalité, fantôme au sens d'un fantôme de bibliothèque, puisqu'on note encore aujourd'hui des drapeaux confédérés dans le sud des États-Unis, ici ou là, il me semble que ce mythe du Sud passe surtout désormais comme un motif littéraire chez de grands auteurs comme Faulkner, comme Carson McCullers, Flannery O'Connor, ou même chez Henry Miller. Et pour conclure cette conférence, je voudrais citer un peu longuement un des chapitres du cauchemar climatisé de 1945, publié par Henry Miller, qui est en fait un hymne assez troublant à la société du Sud. Henry Miller écrit ainsi: « Je ne vois pas de résultat de ce grand conflit, la guerre de sécession, qui justifie l'immense sacrifice qu'on nous a demandé de faire. Je ne vois qu'un prodigieux gaspillage de vie humaine et de biens matériels, l'instauration du droit par la force et la substitution d'une forme d'injustice à une autre. Le Sud est encore une plaie béante. On ne peut s'empêcher de rêver à ce qu'aurait pu être cette terre bénie, si les ravages de la guerre lui avaient été épargnés, car dans nos États du Sud, ce qu'on appelle la culture esclavagiste n'avait donné encore que ses toutes premières fleurs. Nous savons ce que les cultures esclavagistes de l'Inde, de l'Égypte, de Rome et de la Grèce ont légué au monde. Nous leur sommes reconnaissants de cet héritage. Nous ne le repoussons pas sous prétexte qu'il a été bâti sur l'injustice. Qui donc a le courage devant ces merveilles du passé de s'écrier « Il aurait mieux valu que rien de tout cela n'eût été si pour créer ces chefs-d'œuvre il a fallu priver un seul être humain de sa liberté. Qui sait quelle splendeur aurait pu s'épanouir dans des foyers de culture comme Charleston, Savannah, New Orleans. » Alors, il y a une bonne dose de provocation, naturellement, dans le propos d'Henry Miller, mais l'historien que je suis tend à penser qu'en ce cas, la littérature de la Renaissance du Sud, même provocante, s'empare du motif sudiste, distinct, esclavagiste, splendide, pour la simple raison qu'il n'est plus vif, qu'il a été purgé de tout efficient sur le plan politique, magnifié dans les lettres, il se diffuse dans la culture nationale tout entière. Voilà aussi une sortie possible de la guerre civile, sa transfiguration littéraire.
Merci, merci monsieur pour cette magnifique exposé. Le temps a passé, vous n'y êtes pour rien. Allez, deux questions donc qui vont à l'essentiel et vous répondrez brièvement. Alors qui veut prendre la parole? Monsieur Contamine.
C'est la citation de Luc. Oui. Vous avez repris toute maison divisée, mais le texte de la Vulgate se dit tout royaume. Alors est-ce qu'il y a un problème là?
Non, il n'y a pas de problème, et il y a simplement des variations dans les traductions. Je vous ai bien entendu ce matin, et pour ma part, je suis allé vérifier la traduction dans la Bible de Jérusalem, et pour avoir travaillé pendant un certain nombre d'années sur les traductions liturgiques, je sais combien, dans le contexte politique, il y a des images qui changent, donc le royaume divisé, la maison divisée. Ça serait intéressant de voir exactement comment on est passé d'une métaphore à une autre, et je dois dire, je ne saurais pas dire...
Le sabbat, de quel type Lincoln s'est servi?
Lincoln dit la maison.
Lincoln dit la maison, c'est bien sûr, c'est la maison divisée. Il faudrait voir donc si dans la King James version on emploie la maison, ou, mais en tout cas la Bible de Jérusalem emploie le terme de maison. Je ne suis pas allé voir le texte grec, ça serait effectivement un...
C'est vous qui avez transcrit la réécriture constitutionnelle de 61.
Pardon ?
C'est vous qui l'avez transcrit ?
Oui, mais en fait, c'est un exercice très, très commun. On
parce qu'il y a un jeu de majuscules et minuscules qui ne passe pas dans le mot texte.
Ah,
et celle qui se garde, si vous le remettez.
Il faut que je regarde, c'est effectivement...
C'est mieux.
faudrait regarder dans les manuscrits, en fait, de l'époque.
Ouais. Bon, mais vraiment une question.
La résonance en Europe, est-ce que les confédérés avaient des soutiens dans l'opinion française ou européenne ?
Dans l'opinion française, il faudrait commencer par dire que c'est une question très compliquée sur le plan diplomatique et sur le plan international. L'Angleterre manque d'entrer en guerre quand même avec le Nord. Il y a la question canadienne en plus qui se pose puisqu'il y a un certain nombre de menaces. Et l'opinion du Sud, l'opinion française, est globalement plutôt favorable au Sud. Puisque c'était le sens du propos d'Edouard Lacouture que je citais rapidement, il existait dans la mentalité encore française ce vieux mythe de la Nouvelle-France, de la vallée du Mississippi. Si Edouard Lacouture parle de population gallo-romaine, il fait précisément rappel de la question espagnole, de la question française et donc de la question coloniale. Et alors évidemment, après, sur le plan politique, l'Angleterre avait déjà aboli l'esclavage et donc politiquement incliné plutôt en faveur du Nord, mais il y a la question économique et dans ce cas-là, l'Angleterre est plutôt en faveur du Sud et tout cela est très compliqué. Il y a une thèse de Farid Hammer qui est un docteur d'André Caspi qui a travaillé sur cette question, sur la réception du conflit dans l'opinion publique en France et qui est tout à fait remarquable contre.
Bien, merci. Eh bien, je vous donne rendez-vous à 14h30 pour la suite et fin.